Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez maintenant pour cette dernière partie de La Grande Table, une série exceptionnelle de 5 chroniques jusqu'à vendredi. Voilà ce que nous vous proposons pour bien commencer la semaine. Toute cette semaine, en effet, Brice Couturier s'intéressera aux lectures du nouveau président, dans la tête d'Emmanuel Macron et surtout dans sa bibliothèque. Chaque jour, notre éditorialiste recommandera un livre, un essai, français ou étranger, qui devrait guider l'action du chef de l'État. 5 conseils de lecture au nouveau président, ce sera donc tous les jours autour de 13h20. Et pour commencer, le Britannique David Goodhart, fondateur du magazine Prospect, pour son livre « The Road to Somewhere ». Passation de pouvoir sous les ors de la République hier, Emmanuel Macron est désormais officiellement investi. À qui avons-nous affaire ? Un président philosophe ? Qui sont ses penseurs référents ? Quelles sont les idées qui structurent sa pensée ? Productivisme, saint-simonisme, libéralisme social, les théories philosophiques, politiques qui l'ont inspiré, comment les traduire en action ? Aux sources d'Emmanuel Macron, en campagne, le fondateur d'En Marche réfléchissait pour le 1 à son rapport à la philosophie. Je le cite, elle aide à construire, disait-il. Elle donne du sens à ce qui n'est sinon qu'un magma d'actes et de prises de parole. C'est une discipline qui ne vaut rien sans la confrontation au réel. Et le réel ne vaut rien sans la capacité qu'elle offre de remonter au concept. Voilà, donc dans cette dernière partie de La Grande Table consacrée au savoir et aux idées, droit d'inventaire aujourd'hui avec une spécialiste du libéralisme et un biographe de Paul Ricoeur, la philosophe Catherine Audard et l'historien François Doss. Catherine Audard, professeure de philosophie à la London School of Economics, auteure de « Qu'est-ce que le libéralisme ? Éthique, politique, société ?», un ouvrage paru chez Gallimard, et de John Rawls, « Politique et métaphysique » au PUF. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu de Londres jusqu'à nous pour nous éclairer sur cette pensée macronienne éventuelle. À vos côtés, François Doss, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste de l'histoire intellectuelle, professeur d'histoire contemporaine à l'ESPE, c'est-à-dire l'École supérieure du professorat et de l'éducation de Créteil, enseignant à l'IEP de Paris, auteur de Paul Ricoeur, L'essence d'une vie, 1913-2005, et de La marche des idées, histoire des intellectuels, histoire intellectuelle, tous deux parus à La Découverte. Alors à l'instant, Thierry Mandon s'était déjà exprimé sur la question. Il disait « Je ne sais pas ce qu'est le macronisme ». Nous ne savons tous pas exactement encore ce qu'est le macronisme, mais on peut, avec Antoine Mercier, se pencher aujourd'hui sur ces livres, ces idées qui ont influencé, inspiré le nouveau président. Avec vous peut-être, Catherine Audard, d'abord, est-ce que Emmanuel Macron peut être ce fameux philosophe froid, cher à Platon, c'est-à-dire un philosophe sage, un dirigeant idéal? Est-ce qu'il se présente en tout cas comme tel en termes d'exemplarité?
Oui, c'est certain qu'il représente le parti de la raison, du raisonnable en tout cas, un libéralisme modéré, des politiques sociales modérées, etc. Donc il est un représentant d'une vision raisonnable de la politique qui est vraiment étrangère à la vie politique française. C'est vraiment une nouveauté extraordinaire.
Parce que qu'est-ce qui est raisonnable sinon?
Mais disons l'appel des extrêmes à manifester dans la rue, à régler les problèmes politiques par la violence ou l'agression, etc. Je veux dire, lui, c'est on va discuter dans un contexte pluraliste, d'un contexte de conflit, de désaccord, mais il est possible d'arriver à se parler. Alors ça, c'est vraiment la philosophie habermasienne, si vous voulez, à l'arrière-plan, ou celle de Ricoeur, celle du dialogue, de la discussion. Et on l'a vu quand il était à Whirlpool, par exemple, il est allé parler. Et il a réussi à parler aux représentants syndicaux et aux ouvriers en grève. Enfin bon, la force de la parole.
La force, voilà, de la parole.
La force de la parole.
Donc philosophe, roi, on ne sait pas encore. Peut-être un président philosophe, c'est la question qu'on se pose ensemble jusqu'à 13h30. François Doss, la légende veut donc qu'Emmanuel Macron ait été l'assistant éditorial de Ricoeur sur la mémoire, l'histoire, l'oubli. Basculer du champ des idées à celui de la politique, c'est accepter le geste imparfait. Voilà ce que disait Emmanuel Macron en se plaçant sous le haut patronage ricœurien dans un entretien qu'il avait donné à l'hebdo Le 1. De l'idée à l'action, cela passe forcément par un processus de traduction. C'est Ricoeur qui m'a poussé à faire de la politique parce que lui-même n'en avait pas fait. Du disciple Macron à Macron l'affranchi, François Doss.
Oui, alors d'abord, je voudrais réagir à... D'abord, l'idée de légende et l'idée de disciple qui ne conviennent absolument pas, ni l'une ni l'autre. C'est-à-dire que, d'abord, il n'y a pas de disciple de Ricoeur, parce que pour être disciple d'un système philosophique, encore faut-il qu'il y ait système. Or, il se trouve que la pensée de Ricoeur est une pensée totalement ouverte. dans laquelle on fait son miel. Et c'est comme cela qu'il l'a pensé, comme un antisystème. Et je vous rappelle, le dernier mot de son grand ouvrage, La mémoire, l'histoire oubliée, c'est « inachèvement ». Or, donc, à partir de là, il n'y a pas de disciple de Ricoeur, car Ricoeur n'a jamais, en aucune manière, créé une chapelle. Hein? Bon, alors, ça, c'est un premier point. Légende de sa relation avec Ricoeur. Certains se sont permis, auprès des proches, je pense à Myriam Revaud-Allonne, de dire que Macron n'était pas un intellectuel. Alors déjà, je ne sais pas où Myriam Revaud-Allonne situe la barre à partir de laquelle on devient intellectuel.
Elle dit que c'est un technocrate certes,
oui,
intelligent et cultivé, mais le représentant, oui, d'une pensée de droite libérale assez classique. On en parlera
Macron,
avec vous, Catherine Audard.
Il se trouve qu'il a été, à un moment, hein, un de mes étudiants à Sciences Po, et il se trouve qu'il était à ce point intellectuel. Il avait alors 21-22 ans. Ça nous replonge aux années 98-99 que je l'ai mis effectivement en relation avec Paul Ricoeur. Donc je peux attester que ce n'est pas une légende, puisque je suis le passeur, modeste, hein, mais d'avoir remarqué ce brillant étudiant et de plus extrêmement sympathique, et d'avoir dit à Paul Ricoeur, voilà un jeune doctorant dont il avait besoin, qui peut vous être utile. Alors, j'ai là, et elle sera publiée normalement dans Le Monde de ce début de semaine, une lettre, hein, dans nos archives de Ricoeur. Une lettre d'Emmanuel Macron du 15 juillet 99. Vous voyez que par rapport aux légendes, l'historien a tendance comme ça, est un petit peu positif, citer des dates et des archives. 15 juillet 99. Emmanuel Macron, cher Paul Ricoeur, je vous passe, elle est longue, elle est très technique, mais ce petit passage, ne voyez cependant dans ses réflexions, je rappelle, il a 22 ans, dans ses réflexions, aucune présomption, je suis comme l'enfant fasciné à la sortie d'un concert ou d'une grande symphonie qui martyrise son piano pour en sortir quelques notes. À force de vous lire, de vous suivre dans vos analyses, j'ai l'envie, l'enthousiasme de m'y risquer. Le risque que je prends et la discussion que vous acceptez de lier avec moi depuis notre première rencontre sont le signe de l'ouverture et de la richesse de votre réflexion. Et je mesure pleinement celle-ci à l'aune des questions qu'elles font naître en moi. Voilà pour la légende.
Bon,
et vous voyez à quel point
il est marqué.
Et je rappelle,
citer, pour être honnête, ce que dit Madame Revaud-Allonne, Macron n'a fait que de la documentation. C'est là la question.
Oui, c'est
précisément.
Faux. C'est
que
faux.
De la documentation.
Alors,
et de l'archivage pour lui,
oui,
en gros,
c'est ça.
Corriger
c'est,
les
c'est
notes en bas de page.
C'est totalement
du
faux.
Du dernier livre de Ricoeur.
C'est bon. Totalement faux. Et on ne va pas venir
sur
la discussion, l'archivage.
Non, mais quel est le statut précisément?
Oui, mais dans cette lettre, par exemple, Emmanuel Macron parle de l'icône, par exemple. C'est... Bon, l'image, l'imagination en histoire, que je sache, c'est pas de la vérification bibliographique en bibliothèque. Bon, donc c'est faux, c'est faux. Alors, on a dit qu'il se targuait de cette autorisation ricœurienne. Moi, je vais pas vous cesser de lire, mais prenez son livre Évolution. Il dit avec toute modestie qu'il ne savait rien et qu'il était à l'écoute. Et mais il en savait beaucoup plus que cela d'ailleurs, parce que, comme vous le savez, il avait un DEA de philosophie, hein, qu'il a passé avec un dénommé Balibar. Mais Balibar, aux questions qu'on lui a posées, vous connaissez Macron, et alors que Macron avait suivi pendant 4 ans son cours, a dit Macron, je l'ai jamais vu. Sauf que il connaît Rugazan, il connaît Balibar, et moi ça me fait penser, comme réaction de l'ancien althusserien Balibar, à la réaction de vous savez, de Georges Segui, qui dirigeait la CGT en 68, et qui, à la question d'un journaliste, vous connaissez Cohn-Bendit? Cohn-Bendit, qui est-ce? Voilà, Cohn-Bendit.
Alors François
Dos, c'est une
pardon,
arrogance incroyable, hein, de répondre
François
ça.
François Dos, maintenant qu'on a à peu près, on a à peu près authentifié, on a authentifié le président, ces choses faites. Si on peut aller un peu dans sa pensée, parce que le temps,
oui,
va passer très vite, François
Bien
Dos.
Sûr.
Quelle articulation fait-il aujourd'hui, Emmanuel Macron, entre la philosophie et éventuellement cet héritage qu'il a pu avoir de Ricoeur et son action politique? Je reviens juste sur ces mots, sur cette idée que cette idée du geste imparfait.
Elle est absolument... L'adéquation, là, même si je vous ai dit qu'il n'y avait pas de disciple...
J'ai pas redit le disciple.
Oui, non, mais effectivement, l'héritage, je dirais, de la pensée de Ricoeur chez Macron, pour moi, qui est un peu traversé, la pensée de Ricoeur, qui écrit une biographie, d'autres livres sur lui, C'est extraordinaire, je la vois tous les jours. Je veux dire, le discours d'hier d'investiture, qu'est-ce que nous dit le nouveau président? Nous sommes à l'orée la Renaissance. Qu'est-ce que je lis, le dernier livre sorti par, établi par mon amie Catherine Goldenstein, Philosophie, éthique et politique, qui vient de sortir au Seuil. Premier texte, hein, j'attends la Renaissance. Alors, pas pour dire, c'est un texte de 88, hein. C'est pas pour dire que Paul Ricoeur attendait Macron en 88.
Est-ce que ça a la même signification dans les deux cas?
Oui, exactement la même signification. Parce que quelle est la signification pour Ricoeur? Je ne vois rien de périmé, dit-il, dans la philosophie du passé. Il y a des positions diverses, ouvertes sur des renaissances inattendues. Qui pouvait penser qu'au XIIe siècle, l'Europe serait platonicienne? J'attends la Renaissance. C'est-à-dire, c'est l'idée de revisiter le passé de manière créative, de revisiter les possibles avérés du passé et les possibles non avérés du passé pour reconstruire ce que Ricoeur appelle notre horizon d'attente, pour remettre l'histoire en marche, pour être tourné vers l'avenir, alors que notre société jusque-là était tournée vers le décadentisme, les grincheux, les zémoristes, etc. Bon, là, on a effectivement l'idée de remettre notre société en avant, et avec la jeunesse, avec la société civile. C'est totalement ricœurien. Alors, effectivement ricœurien, parce que Ricoeur, c'est quoi? En deux mots, difficile, un mot. Mais c'est un philosophe, il le disait d'ailleurs plaisamment à la fin de sa vie, il disait « Moi, je suis le philosophe de l'homme capable, qui suis de plus en plus capable de rien, évidemment, à plus de 90 ans. » Mais c'est l'homme, c'est la philosophie, et il l'a pensé dès le départ, dès sa thèse, la philosophie de la volonté, je vous rappelle, en deux volumes, le volontaire et l'involontaire. La philosophie de la volonté, faire qu'en sorte que dans tous les domaines, la capacité, terme qu'il affectionnait sur la fin de sa vie, la capacité humaine puisse se réaliser.
Alors, le volontarisme politique d'Emmanuel Macron, Emmanuel qui s'inscrirait dans ce sillon-sillage de l'homme capable.
Le titre de l'entretien dans 1, où Emmanuel Macron dit « J'ai été rééduqué par Ricoeur philosophiquement. »
Rééduqué, c'est le terme. Alors, effectivement. C'est d'ailleurs presque le mot qu'emploie Michael Fossel dans la préface de cet ouvrage que vous venez de citer, Paul Ricoeur, philosophie, éthique et politique, qui paraît au Seuil. Paul Ricoeur, éducateur politique. Et non pas rééducateur philosophique, mais éducateur politique. Catherine Audard, quelle culture politique pour Emmanuel Macron? Il est présenté comme un social libéral. Lui se revendique philosophiquement du libéralisme politique. Et de citer John Rawls, philosophe américain mort en 2002, l'auteur de Théorie de la justice en 71, que vous avez traduit, Catherine Audard, livre sorti en France en 87. Il cite aussi souvent l'économiste et philosophe indien, prix Nobel en 98, Amartya Sen. De quel penseur le rapprocher?
Alors, le problème de Macron, ça va de savoir quel genre de libéralisme il va représenter. Est-ce que ça va être celui de Français, de Benjamin Constant, de Tocqueville, ou bien au contraire celui de Guizot, et avec un arrière-plan étatiste et autoritaire. Alors ça, c'est vraiment fascinant de voir ce qui va se passer. Lucien Jaume a écrit un très bon papier dans Le Monde, justement sur le libéralisme de Macron, à rebours de la tradition française, et c'est vraiment l'interrogation qu'on peut avoir. Parce que la grande difficulté, c'est de comprendre le libéralisme comme étant indissociable de l'état de droit. Donc les rapports avec l'État sont fondamentaux, puisqu'il n'y a pas de marché libre, de marché qui fonctionne aussi bien du travail que des biens, etc., sans l'État de droit, c'est-à-dire sans une structure qui va réguler. Vous parliez tout à l'heure, vous évoquiez un libéralisme sans régulation, ça n'existe pas. Nulle part au monde, il n'y a de libéralisme sans régulation, parce que comment voulez-vous que les échanges se produisent s'il n'y a pas la sécurité d'un système juridique et d'un arrière-plan de contrôle? Bien sûr, donc ça c'est...
Un petit peu en Europe peut-être.
Pardon ?
Un petit peu en Europe, cette notion de dire qu'il y a du libéralisme sans qu'il y ait forcément sa structure
si vous voulez,
d'État
vous regardez...
fédéral qui permettrait de contrôler la chose.
Mais il y a toujours, même chez Hayek, qu'on cite toujours comme la pointe extrême de l'ultralibéralisme, qui est faux d'ailleurs, parce que bon, mais Hayek dit bien tout ce qui est bien public, tout ce qui est régulation du marché est indispensable, il y a un rôle de l'État. Tout le problème, c'est la le poids de ce rôle de l'État. Alors chez Guizot, c'était effectivement la tradition monarchiste qui se continuait, si vous voulez, alors que pour Constant surtout, la liberté des modernes devait fonctionner avec un État modeste, si vous voulez, ou un État qui serait sans arrêt sous le contrôle des citoyens. Et Raymond Aron avait une très bonne formule en disant le libéralisme, c'est le gouvernement des hommes par les lois et non pas le gouvernement des hommes par les hommes, si vous voulez.
Donc, de quel côté ça va pencher ?
Alors voilà, ça c'est vraiment la grande question. Alors, j'ai l'espoir, si vous voulez, que la pensée de John Rawls ait un petit peu quand même influencé le climat politique français, culturel français, un tout petit peu quand même depuis quand même si longtemps, et surtout à travers ses continuateurs ou ses critiques ou ses disciples comme Amartya Sen, qui était quand même très proche de lui aussi, eh bien l'idée de la justice comme un élément fondamental du libéralisme. Pour que le libéralisme fonctionne comme modèle social, comme horizon politique, il faut un accord sur une conception de la justice. Et cette conception de la justice, elle choque beaucoup parce qu'elle correspond, pour Rawls, à justifier certaines inégalités. Alors, si vous voulez, voilà, c'est comment équilibrer l'efficacité économique, c'est-à-dire arriver à un niveau de prospérité, à un niveau de développement économique dans lequel la richesse existe et elle peut être redistribuée, et savoir comment la redistribuer. Ben la règle, si vous voulez, de l'équité, c'est de donner plus à ceux qui ont moins, comme dans une famille. Si vous avez un enfant qui est plus fragile que les autres, eh bien, malgré tout, les parents se sentiront obligés de donner plus à celui qui a moins.
Vous voyez, c'est quand même d'équité. Une certaine idée de l'égalité des chances.
Ah, complètement.
Mathieu Laine, qui est un essayiste proche d'Emmanuel Macron, dit qu'il est contre la rente, contre les privilèges, d'où qu'ils viennent. Il préfère les méritants aux rentiers.
Bien sûr, c'est tout à fait l'idée d'égalité réelle des chances. Si vous voulez, la conception que Rawls défend, c'est l'égalité stricte des libertés fondamentales, hein, des droits, égalité des droits, égalité réelle des chances, donc avec toutes les politiques publiques qui sont impliquées, et si des inégalités demeurent, entre les plus, ceux qui réussissent le mieux et les autres, eh bien que ces inégalités bénéficient aux plus défavorisés. C'est-à-dire l'idée de réciprocité. On parlera aussi de fraternité, si vous voulez, mais au moins de réciprocité, que les uns et les autres se sentent solidaires et dans une situation de coopération. Voilà.
François Doss, Paul Ricoeur était aussi un libéral au sens politique du terme ?
Il a refusé d'employer le terme. Moi, je sais, quand je discutais avec lui, il m'avait dit « je n'emploie pas le terme libéralisme ».
La réponse à cette question est compliquée parce qu'il faut l'historiser.
Oui, tout à fait.
Le Paul Ricoeur des années 30, qui appartient à une organisation qui s'appelle Terre Nouvelle et qui a un demi-planisphère avec... l'URSS en rouge et la France en rouge et à la fois la faucille et le marteau et la croix chrétienne a beaucoup changé entre ce qu'il était comme effectivement militant révolutionnaire chrétien dans ses jeunes années et le philosophe ancré dans la pensée socialiste, hein, on peut le dire, très engagé. Moi je le vois et effectivement de plus en plus proche du libéralisme tel que Catherine Audard le définit très bien. Les dernières discussions et les derniers propos de Paul Ricoeur vont tout à fait dans ce sens. Si vous prenez le Ricoeur politique qui va mettre l'accent sur l'éducation politique, et là, on pourrait combiner les deux. Le « en même temps » est bien connu d'Emmanuel Macron. On le retrouve chez Ricoeur dans une pensée tensive qui essaye de tenir les deux bouts de la chaîne. Je pense par exemple à Catherine Audard parle de l'excellent article de Lucien Jaume hier sur le libéralisme. Il y a les deux chez Ricoeur et chez Macron. C'est-à-dire l'idée d'être, dont on parlait, un éducateur politique. Parce que ça passe par la pédagogie, ça passe par l'éducation. Donc, cette notion d'éducateur, on la retrouve chez Guizot, qui a fait un travail, je vois, en historien, d'archives, de mémoire nationale.
Donc, ça serait plus Guizot que Constant, alors, selon vous.
Oui, c'est ça.
C'est ça que vous dites.
Alors, non, il y a du Guizot, donc il y a l'idée régulation, il y a l'idée éducateur politique. il y a l'idée, effectivement, volontarisme politique hein, chez lui, et en même temps.
Et en même temps.
Et en même temps. Effectivement, le pan des libertés
et de la créativité,
de l'inventivité, et de ne pas se laisser circonvenir par la bureaucratie. Et ce, en même temps, eh bien, il renvoie, c'était d'ailleurs ma première réaction tout à l'heure, au « et ». C'est-à-dire qu'on est là dans une pensée du paradoxe. On est là dans une pensée de la tension. Comme aimait à dire Ricoeur, de plus en plus, le choix ne se pose pas entre le blanc et le noir. Ce n'est pas un choix manichéen. Donc, c'est même pas Constant contre Guizot. C'est un choix de plus en plus entre le gris et le gris. C'est-à-dire qui nécessite de faire le détour, l'ascèse, la difficulté de vers la complexité des problèmes qui sont posés.
Et si vous prenez... Mais en quoi cela est-il enthousiasmant finalement, choisir entre le gris et le gris?
Ben,
c'est enthousiasmant parce que ça implique justement une montée en puissance de la démocratie. C'est-à-dire que là où c'est effectivement intéressant, son projet d'En Marche, c'est de faire monter la société civile. En renouant finalement avec ce qu'a été historiquement la Grèce antique, la démocratie grecque, c'est-à-dire de faire en sorte que l'exercice politique n'est pas un métier. Castoriadis l'a bien dit là-dessus. C'est pas un métier, ça ne doit pas être un métier. Et donc, évidemment, notre degré de complexité, il y a des questions d'expertise, mais c'est d'animer le débat public. Informer les citoyens qui ont à prendre position. C'est ce que disait à l'orée de son livre « La mémoire, l'histoire, l'oubli, Ricoeur ». Il a fait, dans un ouvrage savant de 700 pages, la distinction entre mémoire et histoire, parce qu'il y avait recouvrement de ces deux notions. Et il dit d'emblée, mon souci, par rapport au trop plein de mémoire ou trop peu de mémoire, est un souci civique. Et c'est les citoyens, aux citoyens de décider.
Et sur cette question de la mémoire, Emmanuel Macron souhaite justement réconcilier les mémoires et non les opposer ni les nier. Les souffrances ne s'annulent pas, elles s'additionnent. Oui. C'est ce qu'il disait encore récemment à la revue Histoire
en mars dernier. En respectant la spécificité de chacune des mémoires.
Catherine Audard.
Mais pour revenir à ce gris et gris, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'il y a chez Ricoeur le sens du mal. Et très fondamental. Et chez Macron aussi.
Oui, aussi.
Et le mal et le tragique. Et pour la génération de Ricoeur et pour la mienne, eh bien, ça a été, bien sûr, le nazisme, mais ça a été aussi le totalitarisme. Moi, j'ai quand même participé avec Ricoeur à des mouvements de solidarité pour les philosophes en Tchécoslovaquie. Et l'admiration de Ricoeur pour Patočka, qui est quand même mort, victime de la police secrète tchécoslovaque, hein, quand même. Bon, et je veux dire,
on est d'accord.
Alors, gris, c'est notre luxe d'être dans les nuances, parce qu'il y a le mal, il y a la radicalité du totalitarisme, de tous les étouffements de la dignité humaine, de la liberté, etc. Alors, je veux dire, être libéral, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment se poser en résistant. Et c'est pour ça que j'aime bien la citation de Camus à la fin du texte de Lucien Jaume, qui dit finalement, une des références de Macron, c'est Camus, c'est la révolte. C'est la révolte contre un état de choses qui ne peut plus durer, qui n'est plus acceptable.
Alors, on a beaucoup gossé, effectivement, sur ce mi-chèvre, mi-chou d'Emmanuel Macron, son incapacité à trancher, son aptitude à composer en permanence et en même temps cette dialectique toute ricœurienne. Vous nous dites qu'elle peut aussi avoir quelques vertus avec vous. Oui. Pour Ricoeur, cette question de la mémoire est très importante. Elle est la représentation présente d'une chose absente, de la mémoire manipulée à la mémoire commandée. Catherine Audard, la mémoire des commémorations du 8 mai à l'hommage rendu encore hier aux soldats inconnus lors de la journée protocolaire. Quel travail sur la mémoire Emmanuel Macron a-t-il déjà commencé à engager? Quelle politique de la juste mémoire pour vous?
Alors là, Macron se situe vraiment dans la grande tradition française de la construction permanente de l'État français, de la nation, si vous voulez, comme identité construite en permanence à partir de tensions, de conflits, de diversité, d'un pluralité extraordinaire. Et ça, c'est en continuation avec la Troisième République, avec vraiment l'histoire française. C'est un point tout à fait.
C'est comme ça qu'il faut comprendre sa phrase, il n'y a pas de culture française.
Absolument, il y a des cultures françaises, il y a un pluralisme tout à fait de quelque chose qui se fait et dans lequel un processus dans lequel l'État a un rôle quand même moteur. C'est ça qui est fascinant.
Vous n'avez pas tort, Catherine Audard, mais je ne verrai pas.
Mais en même temps, vous n'avez pas tout à fait raison.
Voilà, exactement. Voilà. Avec la Troisième République. Pourquoi ? Parce que la Troisième République nous a servi, avec le Petit Lavis, un roman national.
Bien sûr.
Il l'a imposé. Bon.
Bah, c'est ce que fait un peu Macron.
Mais alors justement, où est-ce qu'il le place, ce récit national, roman ?
C'est pas du tout ce roman national, parce qu'il tient compte du regard aujourd'hui historiographique que nous avons dans notre discipline, l'histoire, et qui fait jouer la pluralité mémorielle, la pluralité interprétative, et il est totalement là-dedans, c'est-à-dire que quand il parle de la guerre d'Algérie, il parle de pluralité mémorielle.
C'est aussi un roman. Ça, c'est aussi un roman.
Avec un regard critique.
C'est aussi une construction.
Avec la spécificité de la mémoire des harkis, des pieds noirs, des appelés. Mais en même temps, effectivement, non pas pour les magnifier, les glorifier ou les victimiser, pour en faire un objet. Alors là, vous avez raison, un horizon. Mais non, là, on est totalement dans Ricoeur. Qui est un horizon pour à la fois respecter ses mémoires, leur douleur, leurs blessures, et en même temps pour aller vers l'idée de les pacifier. Pas au sens de la pacification algérienne. Les pacifier, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut aller vers une mémoire heureuse, tout en sachant qu'on ne l'atteindra jamais, évidemment. Mais c'est l'horizon d'attente. Horizon d'attente, pourquoi ? Parce que là, on est dans la créativité. Chaque fois, moi, je me rappelle Emmanuel Laurentin demandant à Emmanuel Macron, dans la fabrique de l'histoire, qu'est-ce que vous verriez panthéonisé, par exemple ? Il dit, mais non, je ne peux pas répondre à votre question. C'est dans le moment, c'est toujours une décision présente que ce rapport au passé.
Catherine Audard, une réaction, puis on va écouter Brice Couturier qui vient nous rejoindre.
Une idée clé chez Ricoeur, c'est celle d'identité narrative. C'est-à-dire que notre identité personnelle ou nationale se construit à travers des grands récits.
Oui, mais elles sont changeantes.
Bien sûr, mais je veux dire, nous avons absolument besoin pour nous retrouver de ces grands récits. Et le fait qu'il fasse sans cesse allusion à ses origines provinciales, à son terroir, etc., c'est vraiment, à mon avis, dans cette visée d'une identité narrative.
L'historien François Doss et la philosophe Catherine Audard sont avec nous. Encore quelques minutes jusqu'à 13h30.
France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert.
Du lundi au vendredi, 5 conseils de lecture au nouveau président pour l'aider à structurer sa pensée, peut-être même à guider son action. Avec vous, Brice Couturier, bonjour.
Bonjour Olivia.
Et ce lundi, vous avez choisi le Britannique David Goodhart.
Monsieur le Président de la République, vous avez déclaré au Figaro le 28 avril « J'ai entendu la colère sur l'Europe et l'incompréhension face à la mondialisation. Je vais la prendre en compte. Je ne ferai pas comme si rien ne s'était passé. Mon objectif, c'est de réconcilier les Français. » Eh bien, dans le but de vous aider à analyser les causes de cette colère et qui sait, de trouver les moyens d'y remédier, permettez-moi de vous conseiller un livre. Il s'agit de l'ouvrage de David Goodhart, en effet, The Road to Somewhere, qui vient de paraître en Grande-Bretagne. Un mot sur son auteur. Goodhart a fondé le principal magazine d'idées dans son pays, Prospect, et il l'a dirigé jusqu'à la chute de ses amis du New Labour, parti dont il était proche, tout en gardant une distance critique. Goodhart estime que la division gauche-droite a perdu beaucoup de sa pertinence et il propose un nouveau clivage entre ceux qu'il appelle les gens de partout et le peuple de quelque part. Les premiers, donc les gens de partout, ont bénéficié à plein de la démocratisation de l'enseignement supérieur. Ils sont bien dotés en capital culturel et disposent d'identités portables. Ils sont à l'aise partout, très mobiles et de plein pied avec toutes les nouveautés. Les membres du peuple de quelque part, eux, sont plus enracinés. Ils habitent souvent à une faible distance de leurs parents sur lesquels ils comptent pour garder leurs enfants. Ils sont assignés à une identité prescrite et à un lieu précis. Ils ont le sentiment que le changement qu'on leur vante ne cesse de les marginaliser, qu'il menace la stabilité de leur environnement social. Ils sont exaspérés qu'on leur ait présenté la mondialisation et l'immigration de masse comme des phénomènes naturels, alors qu'ils estiment que ce furent des choix politiques, effectués par des politiques et des responsables économiques appartenant justement aux gens de partout. Et c'est pourquoi le peuple de quelque part éprouve une très grande frustration. Le sentiment d'avoir été exclu de la parole publique, marginalisé alors qu'il est majoritaire, d'avoir été accusé de xénophobie et d'arriération alors qu'il réclame simplement que le rythme du changement soit ralenti et que l'État en reprenne le contrôle. Alors ce conflit a des aspects socio-économiques évidemment, mais il est d'abord culturel. Les gens de partout prônent un double libéralisme. Un libéralisme culturel hérité des 60s et un libéralisme économique hérité des années 80. Normal, ils en sont les bénéficiaires. Ils ne sont guère préoccupés par exemple par les inégalités de revenus, mais par les questions d'identité ethnique ou de genre. Au nom de la diversité, ils ont imposé un politiquement correct aux universités qui étouffe sous le conformisme. Ils ont contribué à ridiculiser les syndicats ouvriers. Et sous leur influence, les partis de gauche ont déserté les thématiques sociales pour se consacrer aux questions de société. Les gens de partout valorisent l'autonomie individuelle, l'expression de soi, l'émancipation, la réussite. Le peuple de quelque part, lui, privilégie les valeurs de sécurité et de familiarité, le respect des normes communes. C'est lui qui a fait basculer le Royaume-Uni dans le Brexit. Ce qui a motivé son vote, eh bien, c'était simplement la libre circulation des citoyens des nouveaux États membres de l'Union européenne, ceux d'Europe centrale, décidés de manière prématurée par Tony Blair en 2004. C'est d'ailleurs ce qui a valu leur défaite aux travaillistes en 2010. Car les gens de partout ne croient plus à l'État-nation. Ils rêvent d'ensembles plus vastes, tiens, comme l'Union européenne. Certains dirigeants politiques disent franchement qu'ils ne sont pas principalement motivés par les intérêts de leur pays, non, mais par ceux du monde. Or, avertit David Goodhart, c'est dans le cadre national que s'exerce et la démocratie politique et la solidarité sociale. Et dans le reste du monde, on sait d'expérience que les crises les plus graves ne résultent pas de la force de l'État-nation, mais bien au contraire de sa faiblesse, voire de sa déliquescence. C'est pourquoi les politiques multiculturalistes sont dangereuses, juge Goodhart. En insistant sur les différences et non sur le sens du commun, elles minent les bases sur lesquelles reposent nos États-providence. Et je le cite, « Si on veut améliorer l'intégration, on ne peut pas se contenter de prêcher l'importance de la tolérance. On doit promouvoir l'interaction et le sentiment d'inclusion dans la communauté, faire en sorte que les gens se soucient moins des questions de race et d'identité en les plongeant dans une mer de ressemblance, de buts partagés et d'interdépendance mutuelle. Pour éviter que l'opposition entre les deux groupes ne débouche sur un conflit ouvert qui fragiliserait nos nations européennes, il faut accorder davantage d'intérêt aux revendications du peuple de quelque part. Cela passe par certaines inflexions politiques, par exemple rééquilibrer les budgets attribués respectivement à l'enseignement supérieur et à l'enseignement technique et professionnel, car l'économie du savoir et de la connaissance qu'on a vendue aux ouvriers et aux techniciens s'est avérée un attrape-nigaud. Autocritique finale, rétrospectivement, l'une des principales erreurs du New Labour fut de célébrer le changement en tant que tel. Or, la politique est la gestion du changement. Les décideurs doivent démontrer qu'ils maîtrisent les changements et non faire comme s'ils se contentaient de les subir. Le livre de David Goodhart a pour titre « The Road to Somewhere » et Monsieur le Président, je vous en recommande la lecture.
Catherine Audard, vous le recommandez effectivement ?
Oui, David Goodhart, depuis au moins 15-20 ans, faisait sonner ce son de cloche pour la gauche en disant « Attention, vous avez déplacé les questions de redistribution et de justice vers les questions d'identité et de reconnaissance. » Et ça peut être dangereux, il faut combiner les deux. Or, la bascule avait été faite. Et c'est vrai qu'une partie du programme Labour s'était détachée de sa base traditionnelle, si vous voulez, ouvrière et populaire, bien sûr. Il y a du vrai dans sa position, absolument.
Un grand merci à vous, Catherine Audard. Merci, François Doss. Merci, Brice Couturier. Rendez-vous demain pour un second conseil de lecture au nouveau président. Et à Antoine Mercier, qui a participé à cette discussion. Enfin, toute l'équipe, évidemment, de la Grande Table, qui a préparé cette émission, et notamment aujourd'hui, Claire Maillot et Clémence Marie. Toutes les informations sont à retrouver à la page de la Grande Table sur franceculture.fr. Pour le suivi, voilà, très bel après-midi à tous. Rendez-vous demain.